stade du concept homosexualité en majuscule. Hein.
Oui.
C'est l'homme en fait qui unit les différents aspects de la vie.
Ah merci.
Allez, je continue. Vous avez lancé les enregistrements là ?
Oui.
Alors, mais le mot a été dévié de sa véritable signification et appliqué dans 9 cas sur 10, si ce n'est pas dans 99 cas ou sur 100, à un type de perversion mentale, à une attitude déformée de l'esprit, qui aboutit souvent en pratique physique et en réaction, qui sont si anciennes dans leur manifestation que leur antiquité est un démenti à l'idée que cette attitude pourrait représenter un pas en avant sur le sentier du progrès. Ça doit être la 7.
7 quand même. En haut, premier paragraphe.
Et alors, voyez-vous, ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on trouve toujours ces perversions lorsqu'une civilisation est à son déclin et lorsque l'ordre ancien fait place à un ordre nouveau. Alors, je descends un peu en dessous. Comme le monde des formes répond cycliquement à un influx des énergies supérieures, leur effet est de stimuler toutes les parties et tous les aspects de la vie formelle. Et cette stimulation aura aussi bien de bons que de mauvais résultats. Le mal émergera temporairement aussi bien que la vertu durable. Si l'effet de l'impact de ces énergies est de produire des réactions matérielles, et si l'homme concentre alors son intérêt sur ce qui est matériel, c'est la nature formelle qui domine et non la divine. Si l'énergie est prostituée à des fins matérielles, telles que l'expression de relations sexuelles physiques pour des objectifs purement commerciaux, il ne peut en résulter que du mal. Mais il faut bien se souvenir que la même énergie divine, appliquée par exemple dans le domaine de l'amour fraternel, n'engendrera que du bien. Je vais illustrer sur... Bon, voilà. Là, nous voyons en fait, un siècle après, dans quelle direction le processus s'est développé. Le septième rayon, celui de la loi et de l'ordre, arrive en manifestation. Nous passons dans un nouveau signe du zodiaque et la venue du Christ est imminente. Je vous rappelle à ce sujet que le septième rayon est aussi lié à Neptune, c'est-à-dire au Christ. 7.
Dernier paragraphe.
Alors, comme le septième rayon a pour dessein d'unir l'esprit et la matière, eh bien, vous voyez que émerge en fait de façon importante la notion du sexe. Au sens où l'être reçoit les influx du septième rayon et les traduit à son niveau de positionnement. Alors, cela résulte, 1, de l'arrivée de l'âge du Verseau, qui stimule aussi dans l'homme un esprit d'universalité. Mais d'autre part, je saute, hein, vous essaierez de... Bon. Je suis à la page 8, et l'arrivée du Verseau, le deuxième paragraphe. Mais je suis au milieu. Mais d'autre part, ces influences agissent sur les corps sensibles des êtres non développés et de ceux qui sont trop psychiques, conduisent à cette impulsion morbide vers des unions tant légitimes qu'illégitimes, à une aptitude exagérée à des rapports sexuels dans des directions multiples et à des alliances qui ne cadrent pas avec la ligne évolutionnaire. L'énergie est une chose impersonnelle et elle est double dans son effet. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il vous donne, pour comprendre la situation de l'époque, mais aussi aujourd'hui, au sens où elle a pris une direction, mais c'est pour expliquer notamment que l'énergie est neutre. Qu'elle ou développe l'aspect solaire ou développe l'aspect lunaire. Donc, la première incidence de tout ça, c'est l'arrivée de l'âge du Verseau. Deuxième aspect, c'est ce septième rayon qui vient exprimer le pouvoir d'organiser. Il produira aussi de nouvelles formes qui, du point de vue de l'esprit, peuvent être considérées comme le mal matériel. L'effet de tout ça, c'est que dans les êtres du cinquième règne, vous avez quatre cinquièmes qui, malheureusement, sont pris par l'aspect matériel. Vous m'arrêtez, si vous voulez une précision. De faux et de justes standards émergeront dans la conscience de l'homme et c'est le choix qu'il devra faire qui posera le fondement de l'ordre nouveau, qui inaugurera la nouvelle race avec ses nouvelles lois et ses nouvelles approches, permettant l'introduction de la nouvelle religion d'amour et de fraternité. Et cette période où le groupe et le bien du groupe sera la note dominante. Troisième facteur, là on est dans l'aspect divin, à savoir que de par ce rapprochement des pôles, eh bien le Père, celui qui donne la vie à la planète et notamment sa présence Sanat Kumara, va pouvoir agir par adombrement. Cela veut dire que, étant en chacun de nous, eh bien, il pourra impressionner celui qui a un rôle de porteur de lumière. Et je laisse dans la mesure où, comme on dit, après, il vous suffit de relire. Bon, ce qui dépend de nous, c'est d'être prêt. Alors, en vous rappelant que les êtres au début sont sollicités par des petites tâches. Et quand je dis une petite tâche, ça peut être un contact qui se présente à vous et avec lequel vous pourriez l'aider à comprendre. Il y a une vieille sagesse chinoise qui dit celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Celui qui ne sait pas qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui sait qu'il sait, suis-le. Voilà. Donc, comprenez l'invitation. Et c'est comme ça, en fait, si vous voulez, que vous effectuez un relationnel fraternel. Donc, alors, avec la prudence de ne pas donner, comme on dit, les pelles aux pourceaux, c'est-à-dire pas donner la lumière à quelqu'un qui n'est pas en cette vie concerné, mais à l'inverse, la Providence peut vous mettre sur votre chemin et parfois autour de vous. Alors, voilà. Là, vous commencez ce qu'on appelle le service à la vie. Alors là, il y a une appellation à en comprendre le sens profond, c'est-à-dire la résurrection de Lazare. Je suis à la page 9. Et la symbolique de Lazare, c'était de sortir de la matérialité. L'émergence de l'humanité hors de sa tombe de la matière. Alors cet afflux d'énergie, ben, elle entraîne premièrement une explosion dans le monde entier, principalement dans les grands centres de population, de l'accroissement des relations sexuelles, mais caractérisée cette fois par une non-augmentation correspondante de la population. Ceci est dû à la compréhension moderne des méthodes de contrôle de naissance et aussi à la plus grande focalisation mentale ou polarisation de la race qui conduit à la stérilité ou à la réduction de la famille. Quand vous voyez qu'en Chine, ils n'ont le droit qu'à un enfant par famille. Deuxièmement, une réorganisation des idées raciales sur le mariage et sur les relations sexuelles. Aujourd'hui, si vous voulez, il précise, c'est la faillite de la machine légale destinée à sauvegarder l'unité familiale et à interpréter les relations humaines de façon satisfaisante. Parce que derrière le mauvais équilibre du sexe, vous avez la famille qui est en danger.
Oui, mais je reviens deuxièmement à une réorganisation des idées raciales sur le mariage et sur les relations sexuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau au niveau des races, il faut éviter les mariages entre races.
Alors, attends. Il est urgent que, notamment les jeunes, comme ça a été dit dans un passage précédent, les jeunes retrouvent, étant en attente d'un idéal, ils retrouvent une saine définition et entière et pleine définition du sexe. Parce que pour l'instant, le sexe est totalement réduit au rapport physique. Alors qu'en fait, c'est le principe même fondamental qui guide la manifestation de la vie. Bon, il y a ça. Alors ensuite, j'ai pas les références, mais quand tu parles de relations raciales, il conseille dans un passage, peut-être que Cléa viendra m'aider, au fait que il n'est pas bon que la race blanche se mêle avec la race noire. Oui. Parce que la race noire a un karma très lourd. Donc vous voyez encore récemment les difficultés d'épreuve qu'elle a eues. Et par conséquent, ça peut surprendre, mais quand on l'appréhende, c'est essentiellement lié au karma. Et comme il y a karma de famille en l'état, eh bien, les êtres qui viendraient de ces unions ne pourraient pas être forcément des êtres très très avancés, à part, on est en généralité, à part bien sûr des exceptions, il y en a toujours, mais c'est pour que vous compreniez d'une façon générale.
Excusez-moi Bernard, et quelque part il dit que ce mélange de races avec toutes les races, le projet de toutes les races donnera naissance à la future race.
Oui, sauf le problème du karma de la race noire.
Toutes les autres races, oui, avec les races noires, il faut les
centrer. Au contraire, d'ailleurs, on le voit au niveau des mélanges. Hein. Vous prenez une européenne qui a du sang asiatique et autres, ça donne des corps superbes. Rien que ça.
Les métissages.
Oui.
Quelquefois aussi.
Écoutez, si j'arrive à l'occasion à retrouver le passage, je vous donnerai la réponse.
Hein? Cet aspect-là, et puis l'autre qui est un peu contradictoire. Alors il y a un autre passage aussi où il dit justement que ça va créer la future race. Donc, il serait bien qu'on fasse le point entre les deux.
Oui, mais ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend comment on regarde le sujet, au sens où on est toujours dans des dualités. Et voilà. Mais ce que je peux là vous dire, c'est qu'il met cette réserve au niveau de la race noire, qu'il ne met pas pour les autres races.
Cela suppose que des gens qui naissent en Afrique se sont toujours incarnés en Afrique, alors. Parce que nous, de même qu'on a pu être homme ou femme, on a pu aussi naître en Afrique.
Non, mais attends. Ce qui t'importe, c'est à quelle sous-race tu appartiens. Est-ce que c'est la noire, la blanche Tu comprends? Le problème, il n'est pas. Après, ça, c'est essentiellement lié à un contexte de famille. Hein, mais autrement, non. Si tu as un véhicule de race blanche, tu appartiens à la sous-race blanche de la cinquième race.
Au cours de toute chose, alors que à partir du moment où on a un véhicule de race blanche, on l'est toujours.
Non.
Non, bah justement.
Non.
Ça dépend du cas.
Tu as par exemple des êtres de la race noire qui ont progressé par l'épreuve, et il leur est offert la possibilité de ne plus porter collectivement, tu vois, le karma de la race noire.
Qu'est-ce qu'ils ont comme karma, alors, comme type de karma?
Ben, la sous-race noire, en son temps, elle a été dominante comme est la blanche aujourd'hui. Simplement, elle a été éminemment cruelle. La preuve physique, c'est la désertification de l'Afrique. Le Sahara était une région verdoyante comme l'est l'Europe. Et la race noire a tellement généré de cruauté, de méchanceté, qu'elle a désertifié. D'où, aujourd'hui, la lecture karmique en retour. Il ne s'agit pas, si tu veux, la loi est la même pour tous. Hein, tu as des branches de la race qui font n'importe quoi, et puis après, bah, il ne faut pas être étonné. La lecture, on va dire, divine n'est pas du tout la lecture humaine. L'homme, tu as avec la soi-conscience la loi de karma incontournable, inexorable. Et l'être est libre. À partir de là, bah, il récolte ce qu'il a semé. Mais tu as des êtres qui se sacrifient. La meilleure preuve, c'est que Jésus est né dans le peuple juif, qui était le peuple le plus avancé pour s'élire. Pas peuple élu, confusion des genres. Le peuple juif vient de la chaîne de la lune et par conséquent avait déjà fait un grand bout du parcours humain. Bon, je ne passe pas sur les capacités qu'ils ont largement acquises. Mais ils ont intégré l'énergie d'amour, de juste relation. C'était, compte tenu de l'évolution des peuples, c'était le peuple qui était à s'élire. Donc qui avait à répondre, normalement il était mûr pour répondre à la manifestation de juste relation. Voilà. Alors, il n'y a qu'un regard bienveillant sur le peuple juif. Il n'en reste pas moins que... Que voulez-vous ? Pour l'instant, ils se séparent. Ils se séparent.
Ça commence à bouger quand même. J'ai écouté hier une conférence sur l'hôpital à Daga, à Jérusalem, où ils soignent sans distinction de race, de nationalité ou de religion, que ce soit musulman, juif, chrétien, etc. Les médecins soignent tout le monde. Et ils accueillent tout le monde et tous les enfants. Je trouve ça formidable. Dans ce pays-là qui est justement dualité.
J'entends bien. Et c'est quelque chose de très bien. Mais s'il y a des blessés, c'est lié à quoi ?
Justement, le fait que les blessés se soignent dans la même pièce, dans les deux camps, ils commencent
à... Oui, non, mais c'est bien. C'est très bien. Essayez de comprendre que nous avons là un épicentre pour l'humanité, à savoir un peuple ancien, intellectuellement avancé, en difficulté d'assimiler l'énergie d'amour-sagesse, et de l'autre, un peuple de notre humanité. C'est-à-dire... beaucoup plus jeune, mais qui porte la pression qu'on lui fait. Voilà. Quand ce problème-là sera résolu, l'humanité aura fait un grand pas. Alors... deuxièmement, premièrement, à une réorganisation des idées raciales sur le mariage et sur les relations sexuelles. On en était là. Alors, je passe, vous direz. La vertu. C'est intéressant. Autre définition de la vertu. Page 10. Et la manifestation dans l'homme de l'esprit de coopération avec ses frères. Ce qui nécessite de l'altruisme, le contraire de l'égoïsme. Là, vous avez une autre définition de la vertu. Hein. Le vice, alors, le contraire de la compréhension et un parfait oubli de soi-même pour soi-même. Hein. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est pour soi-même. Hein. Le vice est la négation de cette attitude.
C'est très large, là.
Hein ?
C'est très large, là.
Ah ben, c'est la définition du bien et du mal. Tu peux le définir autrement ? Bien, c'est la vertu du bien de l'ensemble. Le vice, c'est le mal séparatif. Alors, ces deux mots signifient simplement en réalité perfection et imperfection. Conformité au standard divin de fraternité ou faillite à se conformer à ce standard. Les standards sont des choses changeantes, ils changent en même temps que la croissance de l'homme vers la divinité. Ils varient aussi avec la destinée de l'homme selon son époque et son âge, sa nature et son environnement. Il se modifie également selon le point de développement évolutionnaire. Le standard de la réalisation n'est pas aujourd'hui ce qu'il était il y a 1000 ans, ni ce qu'il sera dans 1000 ans. Hein, souvent, il y a beaucoup de gens qui dissertent sur vertu et vice. Mais en fait... la question, elle est simplement, vertu, c'est lié à la nature de l'être. Le vice est lié à la résistance de nos lunaires. On tombe dans le mal quand on retombe dans un bien dépassé, alors qu'on sait que on l'a dépassé. C'est une échelle variable. C'est pour ça qu'il vous dit que les standards sont variables. Pour un être du quatrième règne, un comportement sera pas mal. Pour un être du cinquième, ce ne sera plus le cas. Alors, dernier paragraphe. Je voudrais encore envisager le problème du sexe sous un autre angle et indiquer pourquoi il est un symbole fondamental. Nous savons qu'un symbole est signe extérieur et visible d'une réalité intérieure et spirituelle. Quelle est cette réalité intérieure ? Avant tout, la réalité de relation. C'est une relation existant entre les paires d'opposés, père, mère, esprit, matière, positif, négatif, vie, forme. Et entre les deux grandes dualités qui, réunies dans le sens cosmique, engendrent le Fils manifesté de Dieu, le Christ cosmique, l'univers sensible, conscient, dont chaque être de lumière est une parcelle. Il n'y a pas mon âme, ton âme, il y a l'âme. La question est simplement de savoir à quel niveau de strate vous vous trouvez en conscience. L'histoire évangélique est le symbole dramatique de cette relation et le Christ historique est la garantie de sa vérité et de sa réalité. Le Christ, en tant que lumière du monde, révéla cette réalité du fond des ténèbres du temps. Dieu parla et la paternité de la déité fut révélée. Le drame de la création et l'histoire de la révélation nous sont dépeints. Et seulement, si seulement nous pouvions réellement voir et interpréter les faits de façon spirituellement exacte dans la relation des deux sexes et dans le fait de leur interaction. Lorsque cette relation ne sera plus purement physique, mais sera l'union de deux moitiés séparées sur les trois plans physique, émotionnel et mental, nous pourrons voir la solution du problème du sexe et la réinstauration du mariage en tant que relation telle qu'elle était projetée dans le mental de Dieu. Si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Hein. Bon. Alors, il est donc rare, très rare, que nous trouvions la fusion coordonnée, coopérante des trois parties de la personnalité chez les deux éléments de l'union. Là, en fait, il fait une projection sur ce que devrait être la véritable couple du cinquième règne. Mais, plus loin encore, et lorsque cela se présente, alors c'est une véritable union, un réel mariage, une fusion des deux en un. Quand je dis plus loin encore, parce que l'être, les deux vivent en tant qu'être, mais ils grandissent dans leur dimension, depuis leur dimension spirituelle jusqu'à la dimension divine. J'écarte toute voile religieuse, surtout. Ce qui a été conçu par les religieux est dépassé et de loin. Ce qui veut dire que le couple, dans sa dimension de réalisation divine, va, concevoir qu'ils sont créateurs par la pensée, qu'ils sont là pour instaurer une nouvelle civilisation de justes relations, qu'ils servent la vie et qu'ils s'offrent comme canal à la venue d'êtres très avancé. C'est pas rien le sexe, hein ?
C'est une sacrée responsabilité, finalement.
Et une responsabilité sacrée.
Sacrée.
Sacrée responsabilité, mais responsabilité sacrée. Ce que vous intégrez émergera dans votre vie future. Je vous l'assume, je vous l'assure. Soyez pas inquiets. Ce que vous engrangez aujourd'hui sera autant de fruits du printemps de votre prochaine vie.
Oui, mais Bernard, ce qui est vu là doit normalement être enseigné dans le cadre de la nouvelle civilisation pour que les jeunes puissent être informés de cela, de telle manière qu'ils puissent vivre en fait les mains de leur couple.
D'où le service à la vie est de semer et de transmettre ce que devrait être l'esprit de la nouvelle civilisation dont la nature fondamentale est les justes relations humaines pour le bien de l'ensemble. Mais en faisant cette démarche, vous écrivez votre futur. Donc, mesurez aussi dans votre travail d'alignement de canal, donc Danta Karana. Eh bien, vous rapprochez en vous les deux pôles de la vie et ce que vous aurez fait, vous n'aurez plus à le faire. Est-ce que vous saisissez cela ? Ce qui veut dire que votre prochaine vie s'annonce en démarrant, on va dire à partir de l'âge de 14 ans, eh bien vous allez démarrer avec tout ça en instinct spirituel en vous. Il faut que dans cette démarche de méditation, hein, puisqu'en fait, on est en méditation là. Hein, on est en train d'unir les richesses de l'esprit jusque ce plan terrestre, bon, en passant par le plan mental. Eh bien, c'est quelque chose qui définit votre futur. C'est pas rien. Et pas rien, attendez, quel est le seul désir spirituel que peut avoir un être du cinquième règne ? C'est de retrouver ces richesses-là le plus vite possible dans sa vie future. Oui, mais en cela, essayons de comprendre tous les voiles d'aveuglement et d'ignorance pour l'humanité, au sens où aujourd'hui n'a aucune pour l'occidental, il n'y a aucune préoccupation ou idée qui a une autre vie, et pour l'oriental, ah, je suis éternel, je verrai la fois suivante. On a à nouveau des extrêmes. Or, l'acte sexuel est essentiellement lié au yoga, c'est-à-dire aux unions verticales. Alors, là où vous allez poser votre ouvrage, eh bien, vous avez, sauf, on va dire, difficulté de nœud karmique, autrement vous aurez très rapidement les retrouvailles de tout ça. Et comme votre être guide, hein, dans ce cas-là il guide, et bien comprenez. Donc vous servez l'humanité parce que par votre réflexion, lumière, donc méditation, vous servez le mental humain, donc l'humanité, et par là même, vous écrivez votre futur. Et vous rayonnez la lumière christique. Ce qui veut dire que chaque être ainsi est une unité dans la conscience christique cosmique. Dans le cas du vrai mariage et de ces relations sexuelles idéales sur les trois plans, alors c'est là hein, où il faut faire attention, c'est que le sexe, il est physique, il est émotionnel, il est mental. Et pour l'instant, vous voyez quel niveau peut être assumé par telle ou telle personne. Bon. Il se fait que se trouvent réalisées les justes conditions dans lesquelles des âmes peuvent trouver les formes nécessaires pour s'incarner. Des fils de Dieu peuvent trouver là des formes pour se manifester sur la terre. Selon le type de contact du mariage, tel sera le type de l'être humain attiré en incarnation. Mais aujourd'hui, vous êtes, permettez-moi de vous le dire, puisque j'en fais partie, vous êtes des êtres qui pouvez transmettre à vos proches, et notamment dans le cadre des plus jeunes de la famille, vous pouvez leur transmettre. Eux sont en attente, si c'est des êtres d'un certain avancement, ils sont en attente de ça, mais on ne leur a pas donné. Hein, vous avez vu ce qui a été dit préalablement, à savoir que en eux, ils rejettent, ça ne leur convient pas, toutes les choses en place. Ça ne leur convient pas, parce qu'il leur manque la dimension supérieure du sexe. Et c'est très curieux, voyez-vous, j'ai eu l'occasion encore récemment d'avoir une jeune femme, enfin, disons qu'elle a passé la quarantaine, elle a divorcé, elle a eu une nouvelle rencontre, après je pense au moins 7 ans de vie seule, et elle est confrontée à tout un contexte, et notamment au fait qu'aujourd'hui, parce qu'elle s'est éveillée, qu'elle a effectué son intégration d'être, eh bien, elle a cette exigence en elle maintenant de trouver quelqu'un qui est sur le même chemin de réalisation. Parce que l'être, à ce moment-là, vit en conscience d'être, et non plus, si vous voulez, aveugle, quoi. Alors, dernier paragraphe ici, sous le symbole du sexe se trouve aussi la réalité de l'amour s'exprimant lui-même. Amour signifie en réalité une relation, mais le mot amour, de même que le mot sexe, est employé sans idée profonde et sans attention à sa véritable signification. Basiquement, amour et sexe sont une seule et même chose parce que tous les deux exprime la signification de la loi d'attraction. L'amour est sexe et le sexe est amour parce que dans ces deux mots se trouve dépeint de façon idéale la relation, l'incarnation. Oui, merci. Il faut que je change de lunettes là. Et l'union entre Dieu et son univers, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et sa propre âme, entre l'homme et la femme. Le motif et la relation sont accentués, mais le résultat voulu par cette relation est la création et la manifestation d'une forme au moyen de laquelle la divinité peut s'exprimer et parvenir à être. L'esprit et la matière se rencontrent et l'univers manifesté naît. Voilà. Vous voyez que la compréhension du sexe, pour l'instant, l'homme est un nain. Alors qu'il doit devenir justement. Vous rendez compte, quand l'homme peut dire moi, Dieu, je suis matière, il a assumé son dessein d'homme, en majuscule.
Il ne peut pas y avoir des inconvénients.
L'homme et Dieu s'unirent sous la même grande loi, et ce fut la naissance du Christ, garantie de la divinité de l'humanité et démonstration du fait. Alors, vous vous rendez compte toutes les barrières qui peuvent tomber, et notamment en religion, sous l'idée que le Christ est le seul Fils de Dieu, et qu'on ne peut pas chercher à comprendre, parce que de toute façon, c'est hors de portée. Vous avez toujours un silence approbateur. Je suis à la page suivante, ça doit être la 12. Dans l'homme lui-même, le grand drame du sexe s'accomplit deux fois, dans son corps et dans sa personnalité. Le processus d'union et de fusion prend place. Je vais brièvement vous parler de ces deux événements symboliques pour le profit des étudiants de l'ésotérisme, afin que la grande question du sexe soit comprise dans son sens spirituel. L'homme, vous savez, est l'expression d'énergie. Ces énergies mettent le corps physique en activité, le galvanisent par l'intermédiaire de certains centres de force du corps éthérique. Ceux-ci, pour l'objet qui nous occupe, peuvent être répartis comme suit: 3 centres en dessous du diaphragme et 4 au-dessus. En dessous, le centre basal, le centre sacré et le plexus solaire. Au-dessus, le centre du cœur, gorge, entre les sourcils, centre de la tête. Nous savons que deux fusions doivent se produire et entre elles, nous devons voir deux promulgations du processus sexuel symbolique et les deux événements symboliques qui extériorisent un événement spirituel. En d'autres termes, nous retombons dans la réalisation de l'Antakarana. Donc je ne vais pas venir dessus, mais c'est pour relier le sujet à ce qui a déjà été vu d'une autre façon. Alors, je vais quand même aller, je change de page, mais dans la tête de l'homme lui-même survient aussi un merveilleux événement symbolique. Dans ce vivant organisme s'accomplit un drame par lequel l'être purement humain s'unit à la divinité. Le grand drame final de l'union mystique entre Dieu et l'homme, et entre l'âme et la personnalité, se joue. Selon la philosophie orientale, il y a dans la tête de l'homme deux grands centres d'énergie, l'un ce centre qui se trouve entre les sourcils, le centre Ajna, réunit et fusionne 5 types d'énergie qui lui sont soumises, c'est-à-dire les énergies en dessous du diaphragme et celles du centre de la gorge et du centre du cœur. Et l'autre, le centre de la tête, est éveillé par la méditation, le service et l'aspiration. Et c'est par ce centre que l'âme établit son contact avec la personnalité. Le centre de la tête est le symbole de l'esprit ou aspect masculin positif, tandis que le centre entre les sourcils est le symbole de la matière et de l'aspect féminin négatif. Vous avez là la symbolique du lune-soleil. Mais je vous rappelle, et j'insiste, esprit et matière sont deux aspects égaux, équivalents. Dans la réalité, l'esprit concerne les vies plus avancées dans l'évolution, l'aspect matière concerne les vies plus jeunes dans leur cycle de manifestation. Ces deux organes sont les correspondants supérieurs des organes masculins et féminins de la reproduction physique. Lorsque l'âme commence à devenir plus puissante dans la vie mentale et émotionnelle de l'aspirant, son influence se déverse avec une puissance plus grande dans le centre de la tête. Lorsque l'homme agit sur sa personnalité, la purifiant, la pliant au service de la volonté spirituelle, automatiquement, il élève les énergies des centres du cœur vers le centre situé entre les sourcils. Finalement, l'influence de chacun de ces deux centres grandit, devient de plus en plus étendue jusqu'à ce que leurs vibrations respectives entrent en contact l'une avec l'autre et créent un champ magnétique d'où la lumière jaillit aussitôt. Le Père Esprit et la Mère Matière s'unissent et le Christ naît. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, dit le Christ. Ceci est la seconde naissance et à partir de ce moment, sa vision apparaît et grandit. Ceci est encore le grand drame du sexe dans l'homme. Ainsi donc, trois fois dans sa vie personnelle, il peut comprendre la signification de l'union du sexe. C'est pas un petit sujet, hein. Dans le sexe sur le plan physique, dans l'union des énergies inférieures avec les supérieures, d'où le résultat est le travail créateur, dans l'union à l'intérieur de la tête, des énergies de la personnalité avec celles de l'âme, et dont le résultat est la naissance du Christ. Il résultera une autre union, qui est la synthèse avec le Père lui-même. Là, il ne s'agit plus de esprit-matière qui fusionne, mais de la vie pour elle-même. Et là, ça recouvre l'aventure que l'homme connaît à partir de la troisième initiation. Grande est la gloire de l'homme et merveilleuses sont les fonctions divines qu'il incorpore par le passage à travers le temps. La race a été amenée au point où l'homme commence à élever les énergies des centres inférieurs vers les centres supérieurs. Je vous rappelle, hein, l'humanité est au bord de la deuxième initiation. C'est-à-dire la non-dépendance des appétits physiques et la non-dépendance des pulsions et passions émotionnelles. Beaucoup d'hommes un peu partout deviennent créateurs dans le sens politique, religieux, scientifique et artistique, et l'impact de leur énergie mentale, de leurs plans et de leurs idées se fait sentir de façon compétitive. Aussi longtemps que l'idée de fraternité ne sera pas devenue prédominante dans la race, nous verrons ses pouvoirs prostitués à des fins et des ambitions personnelles. Alors, j'aimerais que vous notiez, surligniez parmi tout le terme compétitivité. Compétitive.
De façon compétitive.
Parce que c'est ça qui entraîne les travers de prostitution. Ouais. Vous voyez là, tout, enfin moi je l'ai en haut, de façon compétitive, hein, de leurs plans et de leurs idées à faire sentir de façon compétitive. Ça c'est un des pièges. Parce que l'aboutissement de la compétitivité, ça donne des technocrates. Nous sommes dans un schéma de dominant.
Une croissance pyramidale.
Coubertin avait très bien dit, hein, l'important c'est de participer. Mais effectivement, son challenge était avec handicap parce qu'il générait justement cette compétitivité qui a été traduite après dans d'autres domaines de l'activité humaine. Et aujourd'hui, vous voyez que au lieu d'épanouir les êtres, les âmes au niveau éducation, eh bien, on les prépare à la compétition. Alors ça, ça a comme inconvénient, c'est que s'il y a des talents qui ne relèvent pas des facultés intellectuelles, eh bien, ces talents sont handicapés. Parce que par le principe de compétition, on veut formater un mental unique, une pensée unique. Le sexe dans l'âge nouveau. Pas de prophétie, mais une prévision. Alors je laisserai à Cléa le soin d'en parler peut-être avec vous sur l'influence des trois décans de notre nouvelle ère. Voilà. Mais c'est pour rejoindre en fait l'influence cosmique qui plane au-dessus de notre humanité. Alors, j'ai changé de page et je suis la synthèse, la pureté physique. Vous me retrouvez, c'est bon ? Ça va? Vous l'avez?
Quelle page?
Bah, ça doit être 15, hein, c'est ça?
Peut-être, oui, c'est quelle...
Ah, c'est la
15 de 94.
Alors, moi j'ai...
Ça commence comment?
Repasse combien?
Ah oui, 294. Ouais. Alors, un peu au-dessus, un peu au-dessus. Alors, les aides qui vont venir, donc on est en plein dedans, hein. Hein, je vous rappelle que Jewel Kool très sèchement disait « J'écris pour des êtres qui seront en incarnation à partir de 1975 hein, ». Oui. Et quand il expliquait que autour de Belé, quand les êtres ne comprenaient pas trop bien, il disait « Ne soyez pas inquiets, je n'écris pas pour vous qui êtes en incarnation, mais pour ceux qui seront en incarnation en 75. » C'est blanc. Savour. Alors, donc les êtres auront une plus grande conscience de groupe. Ils seront moins individualistes et moins égoïstes. Ils seront plus intéressés par les idées nouvelles que par les théories anciennes. Ils seront plus libres de préjugés et moins intolérants que la masse des gens bien pensants d'aujourd'hui. Dans l'avenir, l'accent sera mis sur la détermination du but de la vie humaine. Réussir dans la vie, certes, nous avons nos obligations de famille, nos obligations de groupe, mais nous avons à réussir notre vie. C'est-à-dire progresser et devenir meilleur. Je saute la synthèse, la pureté physique, en vous rappelant que pureté physique, liberté éthérique. Comprenez ce que ça veut dire. Liberté éthérique, c'est... Je veille à ne générer que des énergies positives. Donc je ne me vois pas nourrir des pollutions lunaires. C'est ça la liberté éthérique. Stabilité émotionnelle. Équilibre mental. Vous avez là le juste milieu pour gérer les énergies des mondes dans lesquels nous sommes. Je répète, pureté physique, liberté éthérique. Ça veut dire, si vous voulez, liberté éthérique, ça veut dire que... Je sais qu'au plus haut des cieux, la loi, c'est la nature de la vie concernée. Une loi, c'est sa nature. Donc son instinct de comportement. Je sais qu'au plus haut des cieux de notre univers, la loi qui prédomine est la loi de liberté. C'est-à-dire de ne pas subir la dépendance à des forces de mes vies mineures, des vies mineures de ma famille, des vies mineures de mon pays, des vies mineures de ma race. Stabilité émotionnelle. Qui veut dire je ne me laisse pas accaparer par des passions et des pulsions affectives ou émotionnelles. Faites attention parce qu'on retrouve à nouveau les extrêmes. Il y a un piège pour l'être qui veut s'épanouir divinement, c'est l'affectivité. Et là, c'est plus délicat parce que c'est en douceur. Est-ce que vous voyez la nuance ou vous voulez que je développe?
Oui.
Alors, l'affectivité, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Et à partir de là, vous n'avez pas la ligne de l'indifférence divine, c'est-à-dire je ne cède en rien à mes vies mineures, et pour aider l'autre à devenir meilleur, ou les autres, eh bien, je me tiens dans cet état de détachement, d'impassibilité, parce que ceux qui peuvent me montrer comme faiblesse, et je vais marquer un temps de pause pour que ça rattrape.
Je ne cède en rien à mes vies
mineures. Et je reste vis-à-vis de mes relations en état d'impassibilité, de détachement, pour atteindre l'indifférence divine, qui n'est pas du tout une indifférence humaine, hein, on se comprend bien. Mais ça veut dire que ma préoccupation est d'aider les autres à devenir meilleurs et donc à se dépasser. Et ce faisant, l'être d'amour c'est être exigeant, dur, sévère quand il le faut. Et c'est de l'amour. Vous voyez que l'affectivité ouais, t'as foncé là, hein, hein. Ah, tu vas te faire siffler au prochain truc, hein, excès de vitesse.
C'est pour pouvoir leur lire à quelque
chose. Oh, mais je vois d'ici, tu attaques le papier, là. Oui. T'es prêt à déchirer. Est-ce que vous voyez ce que veut dire le piège de l'affectivité? Ah, dont la nature, observez-vous, c'est besoin d'aimer, d'être aimé. Mais à partir de là, regardez par exemple une mère dont malheureusement c'est un peu comme on dit le terrain sensible. Eh bien, pour être aimée de ses enfants, que ne va-t-elle, comme on dit, manquer à son exigence d'être? D'où les excès à toujours, si vous voulez, gâter, ou à l'inverse, aigri parce que privé d'amour. Ne confondez pas l'affectivité. Pour vous le situer, c'est le quatrième sous-plan du plan astral. Et en vous rappelant que l'astral est une création de l'humanité. C'est un piège terrible. Parce que, humainement parlant, si vous voulez, ça bouleverse la compréhension. Mais vous comprenez à partir de là mieux le comportement en silence du Père. Parce que, Alexis, vous allez dire, vous me dites que le Père est un Seigneur d'amour absolu et il tolère cette souffrance. Vous comprenez? Or, quand vous serez plus tard en charge de vie humaine, gardez ça en souvenir. Parce que c'est un grand piège.
Quand on sera plus là, c'est ça, de l'autre côté.
Quand on reviendra.
Non, quand sorti du règne humain et de ce cycle, vous serez, je le pense. Ah, maintenant. Confortez un petit peu mon espoir en disant les étudiants d'aujourd'hui seront les maîtres de demain et aussi les guides d'une autre humanité. Eh bien, essayez de graver ça en mémoire. Attention à l'affectivité.
Non, non, Marianne, pas demain, tout
pas
à l'heure.
Demain.
Tout à l'heure.
Vous savez, vous avez des êtres qui aujourd'hui ont la capacité de passer deux stades de compréhension de conscience fondamentaux, c'est-à-dire deux initiations en une seule vie. Hein. Et ce que nous voulons n'est jamais qu'un exercice de passage, sous un certain aspect.
Sans compétition.
Ah, sur, pour vous bien vous définir l'illusion de la compétition, hein, le père vous dirait il n'y a pas de hiérarchie. Alors que vous avez des vies qui donnent, comme on dit, dimension d'existence à un univers ou à cet univers ou à un système solaire, eh bien, ils vous répondent, il n'y a pas de hiérarchie. Puisque c'est la même vie. Simplement, il y a le respect de l'ancienneté. C'est tout. Et puis, de toute façon, indépendamment de ça, je vois mal quelqu'un s'asseoir sur un siège de 100 milliards de volts alors qu'il peut le supporter qu'un million. Hein. Il va se souvenir de son basal. Je n'ai pas fait cette remarque parce qu'on étudie le sexe en pensant qu'on peut avoir le feu aux fesses. Cléa, il faut savoir user de la pierre de touche pour faire des mémoires. Bon, vous me pardonnez ? Alors, je suis en bas. La relation des sexes et la façon... Pardon ?
L'équilibre mental.
L'équilibre mental, on n'a pas parlé.
Ah, excuse-moi. Non, non, mais bien. Alors, équilibre mental, ça veut dire liberté... Liberté de discernement. En d'autres termes, exercer son regard... et faire son libre choix et non pas suivre la pensée unique ou la pensée collective. Un initié est toujours un rebelle. Pas rebelle au sens humain du terme, mais il s'oppose à ce qui est rétrograde. Et par conséquent, l'attitude, c'est de regarder dans le sens de la progression des justes relations, de la progression du bien de l'ensemble. Tu sais, il y a quelque chose actuellement qu'il faut arriver à enclencher, c'est que la prise de conscience collective et de dire nous partons du bien de l'ensemble et nous faisons redescendre tout ça pour le bien de l'individu et non pas les clivages où tout le monde est là à tirer la couverture à soi et c'est ce qu'on voit avec le principe du lobbying là, hein, où chacun comme on dit voit sa chapelle. C'est bon, hein, donc ça veut dire, si tu veux, tu dois exercer ton discernement en disant, bah oui, ça... Ouais. Au même titre, tu vois, par exemple, quand vous faites une méditation, bon, elle est avec semence ou elle est sans semence. Quand elle est avec semence, c'est-à-dire que vous travaillez sur un sujet ou vous nourrissez un sujet, hein, par exemple, vous allez dire, bon, ben, on va faire une réflexion sur la liberté de la femme dans le monde. Bon. Vous allez émettre des idées qui vont être semences, bon. À partir de là, chacun a la liberté de dire « j'y suis » ou « je me mets en réserve, je pousse pas hein ». C'est ça, la première liberté, c'est déjà la liberté dans le groupe. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, comme on dit, exercez votre liberté. Bon, et par conséquent, c'est ce qui vous amène à véritablement participer en tant qu'être de lumière dans la lumière commune du groupe. Mais là, aujourd'hui, c'est les moutons de Panurge. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que les politiques, certains politiques s'en amusent. Il y en a qui se réservent l'exercice très habile de faire applaudir une chose et de faire applaudir après son contraire. La relation, alors je dois être à la page 15, la relation des sexes et la façon d'aborder le mariage seront considérées comme faisant partie de la vie de groupe et devant servir au bien du groupe. Alors là, bien sûr, vous voyez par exemple que quand il y a eu Peace and Love, on était à l'opposé de cette réalité. Hein hein et que mai 68, comme on dit, il est arrivé un peu tôt, mai 68, une année de plus aurait été plus révélateur. Cette conception ne sera plus le résultat.
Reprends un peu de thé.
Non, j'arrive à me shooter au thé maintenant. Bon, alors, cette conception ne sera plus le résultat des lois réglant le mariage, on parle des lois humaines, mais celui de l'éducation relative aux relations de groupe, au service et à la loi d'amour, comprise pratiquement et non uniquement sentimentalement. Les hommes et les femmes se reconnaîtront en tant que, ah non, comme étant les cellules d'un organisme vivant, vital, pardon. Leur activité et leurs perspectives seront colorées par cette réalisation. En fait,
oui. Le stage de tantra, qu'est-ce que ça vient faire alors là-dedans?
Développe un peu, développe.
Eh bien, je vois émerger des centres où on propose aux couples d'aller faire des stages, des séminaires de tantra, des choses comme ça.
Ah oui, le tantrisme. Oui, de plus en plus. Le tantrisme, d'ailleurs, paraît-il que
l'énergie.
Non, la femme de notre président, président de tantra.
C'est les tantristes.
Oui,
c'est ça. Oui, c'est les rapprochés des tantristes.
Ah bon, hein, c'est ça.
Alors, c'est Boros.
Je vais vous renvoyer à la faculté particulière propre au cinquième règne, qui est l'intuition.
Oui, d'accord.
Et qui est l'expression de la nature christique. À travers le mental supérieur. Ce qui veut dire que l'être accède à la réalité des choses subtiles sans avoir besoin qu'on lui dise que ou qu'il raisonne dessus. En d'autres termes, tout ce qui pourrait être en aide du mental n'est que pour brouiller cette faculté. Alors après, que ce soit... les êtres qui suivent des stages et autres, bah, ils essayent de rassembler, mais à un moment donné, ils doivent s'assumer eux-mêmes. Le temps de l'étudiant est certes nécessaire, puisque ça répond à une recherche, mais à un moment donné, il doit assumer. Autrement, il va devenir un étudiant professionnel, et ça veut dire qu'il n'avance pas. Dans la sagesse orientale, extrême orientale que je vous ai rappelée tout à l'heure, la dernière c'est celui qui sait qu'il sait, ben, il faut assumer. Alors, vous en êtes où ? Au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ? Est-ce que vous pouvez affirmer ce que vous êtes ? Indépendamment du fait que tout initié est toujours un étudiant, on se comprend bien. Mais voilà. Hein ? Donc à un moment donné, comme on dit, il ne suffit pas de dire j'ai étudié le ski ou j'ai étudié la natation, il faut se jeter à l'eau, hein, ou descendre la montagne. Hein. Ce que j'essaie de vous faire saisir, c'est que la providence attend. Qui veut dire qu'au-dessus, il y a une glace sans teint et que vous aurez des sollicitations en espérant que vous saurez la saisir et y répondre. Et je pense que les uns les autres, et bien vous avez autour de vous des êtres, et notamment parmi les jeunes, des êtres qui... seront tout à fait à l'écoute si vous commencez par les toucher sur le vrai.
Bon, je crois même qu'ils le savent déjà.
Ah ben ils l'ont en eux. Bah, c'est, tu sais, c'est celui qui ne sait pas qu'il sait. Éveille-le. Alors. Attendez, hein, c'est des richesses hein, que vous retrouvez là. Elles appartiennent à tout le monde. Hein. C'est pas, comme on dit, c'est la richesse de l'homme.
Enfin, le plus malheureux, c'est qu'elles sont considérées comme ésotériques. C'est ça le problème.
Mais l'ésotérisme, par définition, est amené à devenir exotérique. Il en est de même pour ce que donne Jewalkul. Jewalkul fait un travail remarquable et d'à propos compte tenu de l'avancement du cinquième règne. À savoir que les êtres dans le cinquième règne ne peuvent plus être suivis individuellement, comme tel. Bon. Mais dans tout cercle véritable, il y a la partie semi-ésotérique qui doit devenir exotérique, et puis il y a la partie ésotérique. Je pense que de temps en temps, vous êtes aperçu que je fais des fenêtres. Mais allez savoir sur quoi débouche la perspective de la fenêtre. Hein.
C'est déjà du double vitrage.
Hein ?
C'est déjà du double vitrage.
Tu me fais penser là au sumo là, qui se tape sur le... c'est, lui, c'est celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Bon, alors... L'amour des hommes pour les femmes et des femmes pour les hommes sera plus vrai qu'il n'est maintenant, parce qu'il ne sera plus simplement émotionnel, mais basé aussi sur l'intelligence. Lorsque l'impulsion créatrice sera détournée du centre sacré vers le centre de la gorge, l'homme vivra moins intensément dans ses impulsions sexuelles physiques et plus conformément dans son expression créatrice. Sa vie sur le plan physique suivra un cours normal, mais il est nécessaire pour cela que les hommes se rendent compte que la manière dont l'homme d'aujourd'hui satisfait sa nature sexuelle est anormale et déréglée et qu'il faut viser à une sage régularisation. Le désir ardent pour le plaisir égoïste et pour la satisfaction d'une impulsion animale est instinctivement juste lorsqu'elle est réglée. Il est mauvais et de façon dévastatrice lorsqu'il est uniquement prostitué à la jouissance. Notez bien, hein, lorsqu'il est uniquement. Hein. Alors je vous rappelle. Les cinq as pour un être humain. S'il est un homme, il est un être. Il est un homme en activité aux affaires. Il est un mari, un père et un amant, de préférence de son épouse. Si c'est une femme, c'est un être. C'est une mère au foyer. Très beau rôle. Ou en activité. C'est une épouse, c'est une mère et une maîtresse, de préférence de son mari. Regardez la plénitude d'un être, ça repose sur ces cinq as. Et pour votre futur, projetez ce qu'il y aura encore à parfaire. Ou ce qu'il y aurait encore à parfaire. Cette décision, il sera remplacé par la décision mutuelle des deux parties en cause. Cette décision sera subordonnée à une nécessité naturelle de façon appropriée et réglée. Je pense que, si vous voulez, dans ce contexte qui est évoqué là, à un moment donné, il y a un rythme d'union. C'est-à-dire que les deux êtres se ressentent en phase et plus, on va dire, particulièrement sous cet aspect d'épanouissement. Mais la plénitude, ben c'est, comme on dit, le consentement mutuel. Vous imaginez d'ailleurs l'agression qui est un viol. Hein. Mais qui, d'une certaine façon, n'est que le prolongement du comportement de l'homme. Hein. Dans son côté animal. Actuellement, l'une ou l'autre des parties est habituellement sacrifiée, soit une abstinence indue, soit à un dévergondage inconvenant. Derrière abstinence indue, il y a aussi le fait que l'homme va voir ailleurs. Et pour la femme, ça doit être une frustration. Si elle nourrit des niveaux plus évolués d'union, il y a frustration. La deuxième règle est basée sur le point d'évolution. Et pour son exacte application, nécessite la véritable intégration de la personnalité. Cette règle peut être exprimée comme suit. Le véritable mariage et la juste relation sexuelle devraient comprendre l'union des trois aspects de la nature de l'homme. Quand on dit l'homme, c'est homme et femme. Hein. Et il devrait y avoir une rencontre à la fois sur les trois niveaux de conscience, le physique, l'émotionnel et le mental. Bon, ça c'est, si vous voulez, ce qui devrait être l'équilibre. Mais pour les êtres du cinquième règne, ça va au-delà. C'est des retrouvailles d'être. Donc ça veut dire une progression dans l'évolution en tant qu'âme sœur. Et à partir de là, si vous voulez, vous avez l'éveil à la dimension supérieure de cette unité de coupe, c'est-à-dire exprimer la divinité sur Terre et les trois aspects des énergies fondamentales de la divinité, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien, la pureté qui est la synthèse et la perfection. Et cela implique bien sûr les justes relations de groupe. Et au-delà, le fait que l'être assume en conscience son rayonnement divin sur tous les règnes de la nature. Donc ça veut dire être le messager du Père, à la fois par le respect et le rayonnement sur le minéral, idem sur le végétal, idem sur l'animal, idem sur l'homme, quatrième règne de la nature, règne lunaire. L'homme, un homme et une femme peuvent être, pour être vraiment et agréablement mariés, doivent se compléter et être les compléments de l'un de l'autre dans les trois départements de leur nature. Il doit y avoir union simultanée de ces trois départements. J'irai jusqu'à dire, il doit y avoir une complicité, non pas séparative, mais pour être en osmose de conscience. Et d'ailleurs, je pense que vous avez dû observer que lorsqu'un couple est harmonieux, le regard est toujours très expressif entre eux dans le cadre d'un silence dynamique. Par le regard, ils communiquent. Combien rare est ce cas ? Comme il est peu fréquent de rencontrer cela. Bah, ça vous donne quand même des perspectives de mémoire, ça, hein, pour le futur. Plus tard et dans un avenir pas tellement éloigné, nous verrons des mariages qui seront basés sur le point de développement de la personnalité intégrée et dans le rituel du mariage sacré. Seuls se rencontreront ceux qui ont atteint le même point dans le travail de transfert des centres inférieurs vers les centres supérieurs. Un mariage sera considéré comme indésirable parce que les parties mal assorties, lorsque l'un des conjoints vivra la vie d'une personnalité purifiée au-dessus du diaphragme, tandis que l'autre vivra la vie d'un animal intelligent en dessous du diaphragme. C'est la raison des séparations, des divorces. À un moment donné, le grand cas, c'est ça. À un moment donné, il y en a un qui s'élève et l'autre qui reste, comme on dit, à son niveau. Eh bien, c'est une des causes actuellement de divorce, même si ce n'est pas pleinement saisi. En fin de compte, il s'en trouvera quelques-uns qui choisiront leur compagnon parmi ceux en qui le Christ est né et qui expriment la vie christique. Mais ce temps n'est pas encore arrivé, sauf pour des exceptions.
Merci.
Et il écrit il y a un siècle. Hein. Hein? Comment ? Vécu, parce que là, il pose les bases d'un mariage, on va dire, sain, lorsque la personnalité est assumée de part et d'autre, avec le respect de l'un et de l'autre. Bon. Ensuite, il y a une vie en tant qu'être. Et la vie en tant qu'être va essentiellement porter sur le bien du groupe, les justes relations, la fraternité. Et puis ensuite, troisième niveau, l'aspect divin, où là, le couple s'assume en tant que créateur, il s'assume en tant que rédempteur et il s'assume en tant que serviteur de la vie. Donc c'est pour vous montrer, si vous voulez, l'épanouissement du mariage sacré. Mais quand vous regardez un couple qui vit en tant qu'être, ça élimine, si vous voulez, tous les tracas, toutes les perturbations du quatrième règne où ils sont là avec ce qu'on a évoqué, hein, c'est-à-dire, comme on dit, vie de tentation, vie de passion, et puis voilà quoi. Vous mettez ça dans votre mémoire pour le futur. Non mais attends, dans ton futur, dans ton futur, dans ton futur, tu portes ça en toi, tu vas avoir une trajectoire haute, mais ça veut dire que tu as même de rencontrer un être et vous vous êtes donné rendez-vous et vous êtes sur ces strates de conscience. Attends, la vie, elle a une autre dimension à vivre. Ça va ? Oui ? C'est bon ? Alors, le troisième aspect pour un véritable mariage, ce sera le désir de fournir des corps sains et bons et favorables aux égaux qui doivent s'incarner. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir atteindre une richesse de vie qui fait que de beaux êtres peuvent venir. Ce qu'il y a derrière tout ça, si vous voulez, c'est que le hasard, la fatalité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est une chose aujourd'hui impossible dans notre système déréglé de cohabitation. La majorité des enfants qui naissent actuellement sont des accidents et n'ont pas été désirés. Et d'ailleurs, vous verrez qu'au niveau de l'enfant et de la venue des enfants, là vous aurez des cercles qui éveilleront les parents à se mettre en attente de venue. Hein ? Il y a encore quelques décennies, le père était là à se croire le créateur de l'enfant. Hein. Et combien vous voyez en plus d'enfants qui ont eu à porter le rejet de leur malencontreuse venue. Oui. Non désiré. Relisez tout le document et vous verrez qu'à deuxième lecture, vous apercevrez qu'il touche des problèmes de première importance pour le bien-être des enfants.
Donc ceux qui arrivent avec une blessure de rejet, c'est parce qu'ils sont arrivés trop tôt ?
Non, c'est parce que la loi de sexe, ouais. Hein, dans son, je pense que vous saisissez maintenant les dimensions, c'est la loi d'attraction et de répulsion. L'enfant qui est rejeté, lui pour venir, il a besoin de l'énergie d'amour. Si tu veux, tu lui donnes le couple qui donne l'attente, la venue et qui s'offre. Mais attends, c'est le ciel bleu pour l'être qui vient. L'être qui vient et les parents ou un des parents sont là à rejeter. Lui il descend, mais c'est épouvantable. C'est le ciel gris, voire l'enfer.
Et des fois, ça dépend du sexe. Et
qu'il l'habille en conséquence. Hein.
Oui, mais Bernard, c'est quand même l'expression, c'est quand même une expression karmique.
Oui, ça peut être qu'il y en a qui choisissent de venir dans une vie difficile, ce sont des choses.
Oui. Oui, mais en ça, je vous renvoie à une des 12 observances, à savoir Amour, c'est pas de dire c'est son karma, il se démerde. C'est, et, non, mais dans ce cas-là, c'est, dans ce cas précis, tu vois, hein, parce que c'est aimer et donner. Parce que, comme dit Suzanne, bien sûr, comment ? Gabriel. Bon. Bon.
Non, mais
c'est... Ça dépend. Hein. Bon.
C'est Joël qui m'appelle comme ça.
Bon. Non, mais oui, mais c'est parce que j'ai repris. Bon. Et alors, c'est le fait de subir en fait la situation.
Il y a des enfants qui viennent là pour aider les parents, justement.
Oui, hein, oui. Absolument.
Les parents sont dans un tel état qu'il y a quelques enfants qui viennent parce que...
Oui, là, mais ça, c'est un acte d'amour, déjà. Tu vois,
il y a dans certains pays où, justement, le problème qui rejette complètement les filles, et dès qu'il y a une fille qui est née, hein, il faut l'éliminer, il y a certains, à un moment donné, qui les faisaient disparaître et tout. Alors là, du point de vue du karma global...
De famille, de ça, famille.
C'est difficile.
Oui. Mais derrière ces propos, il y a le drame de l'humanité. Parce que c'est courant, hein, les rejets. Par exemple, regardez, il n'y a pas de hasard. Donc, vous allez avoir une jeune femme qui claque, compte tenu de son contexte social, familial et autres, elle est enceinte. Excusez-moi. Ça sent le retour karmique. La promiscuité sexuelle fait que on élimine. Et on se reprend, comme on dit, pour plus tard, une épreuve karmique. Tant qu'elle ne sera pas résolue, elle sera remise. Alors qu'en fait, il lui est demandé un acte d'amour.
Ces trois chapitres, ils sont très importants. Bien les relire, les trois points là, qui indiquent les prémices pour que ça aille un peu mieux dans le monde.
Alors, ils sont très, très importants. Ce que tu dis, oui, mais ce que tu viens de terminer, pour que ça aille mieux dans le monde, c'est parce que c'est ça l'essentiel. Il faut que les êtres de lumière s'aiment dans le mental humain. Et donc, vous n'avez pas qu'un travail propre, personnel, pour votre propre formation, vous avez un travail de rayonnement sur nos frères humains. Si vous voulez déjà dire servir, ça veut dire quoi ? Eh bien, quand vous méditez, vous servez. Quand vous étudiez là et que vous comprenez, vous servez. Ce qui veut dire que si vous relisez, si vous intégrez, si vous pénétrez en profondeur ce que recèlent ces propos, eh bien vous débroussaillez pour le mental humain. La majorité des enfants qui naissent actuellement sont des accidents et n'ont pas été désirés. Certains ont été désirés cependant. Mais même dans ces cas, ils avaient été souhaités pour des raisons d'hérédité, pour des biens à transmettre, pour perpétuer un nom ancien ou pour satisfaire une ambition. Malgré tout, le moment où les naissances seront désirées et ordonnées approche, et lorsqu'il sera cela, il favorisera l'incarnation plus rapide des disciples et des initiés. Une juste préparation précédera l'accomplissement de l'impulsion sexuelle. Et de cette façon, les âmes seront attirées vers leurs parents selon la qualité du désir de ces parents, la pureté de leurs motifs et le pouvoir de leur travail préparatoire. Je vais même plus loin. Vous avez là encore une ligne de travail pour l'astrologue. Ça ne veut pas dire... le couple doit se fixer à tel moment de l'année, ceci, ça, mais ça veut dire qu'il s'offre à toute éventualité. Est-ce que vous voyez la nuance subtile ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à vouloir provoquer, mais ils se mettent dans les meilleures conditions éventuelles.
De toute façon, on pourrait penser quand même petit qu'il y a un karma de famille, il pourrait y avoir un dharma de famille.
Évident qu'à un moment donné, lorsque vous avez un couple, on va dire, d'être éveillé, hein, du cinquième règne, pleinement conscient, c'est-à-dire ayant reçu les éléments du livre de la connaissance, du livre de la sagesse. Donc ils sont, ils savent. Ils sont en possession des clés. Hein. Et bien sûr, il faut comprendre que derrière tout ça, eh bien, les voiles de l'aveuglement, les voiles du silence se lèvent. Ce qui veut dire que des relations qui auraient dû être normales sont retrouvées. Et que par conséquent, eh bien, les parents peuvent être informés de la venue précise de l'être qui s'incarne. Mais ça n'est pas extraordinaire. C'est dans la nature des choses. Lorsque ces trois motifs seront soigneusement étudiés et lorsque les hommes et les femmes baseront leur relation du plan physique sur leur responsabilité de groupe, qu'ils envisageront la possibilité d'une union sur les trois plans simultanément, et je parle des plans supérieurs, hein, pour les initiés, et songeront au fait d'offrir des opportunités aux âmes qui attendent, alors en vérité nous verrons une restauration de l'aspect spirituel du mariage. Et nous verrons cela lorsque la bonne volonté sera devenue la caractéristique prédominante de cette ère où les buts égoïstes et l'instinct animal passeront à l'arrière-plan. Il y a une grande logique, hein, dans l'évolution, hein. La présentation, hein, je suis au cycle, donc 290 au cycle actuel, la présentation de certains postulats fondamentaux qui sont au nombre de 4 et leur maintien devant l'esprit du public conduira à une éducation de l'opinion publique telle que les activités nécessaires s'en suivront. Là, on fait allusion à l'équilibre mental, c'est-à-dire de ne pas nourrir la pensée unique, mais au contraire de pousser sur des idées nouvelles. Alors, je continue. Je voudrais vous rappeler ici que les trois prochaines générations, y compris celles des jeunes gens actuels, alors une génération c'est 20 ans, et donc là ça nous menait en 1975, amèneront en incarnation un groupe d'individus qui seront bien équipés pour conduire l'humanité hors de l'impasse présente. Il faut se souvenir de ce fait souvent oublié. Il se trouve toujours, à chaque époque de l'histoire humaine, des êtres capables de résoudre les problèmes qui se présentent et qui sont envoyés précisément dans ce but. Ce problème du sexe n'est en dernière analyse qu'un problème temporaire, quoi que l'on puisse en penser aujourd'hui. Il est le résultat d'une faute fondamentale, celle d'avoir prostitué les facultés données par Dieu à des fins égoïstes et physiques au lieu de les avoir consacrées au dessein divin. L'homme s'est laissé entraîner par sa nature animale instinctive et seule une compréhension claire et pure de la nature réelle de son problème peut être assez puissante pour le conduire dans l'âge nouveau. Dans le monde de l'intuition et de l'action juste, l'homme doit apprendre et profondément comprendre ce fait que le but principal du sexe n'est pas la satisfaction des appétits, mais la création de corps physiques au moyen desquels la vie peut s'exprimer. Là, nous avons une tête de l'hydre. Le sexe. Dans sa dépravation. Il doit comprendre la nature du symbolisme sous-jacent à la relation sexuelle et par lui saisir la portée des réalités spirituelles. La loi du sexe est la loi de ces relations par lesquelles la vie et la forme sont mises en contact afin de réaliser le dessein divin. Telle est la loi de création. Et ceci est vrai quand qu'il s'agisse de la vie qui incorpore un système solaire, de la naissance d'un animal ou de l'apparition d'une planète. Sexe, c'est le mot... Pardon.
C'est peut-être planète. Une plante ou planète, en fait. Ça peut être les deux.
Non, oui, c'est pareil. Pareil, puisqu'il parle de système solaire, donc... Sexe est le mot que nous utilisons pour désigner la relation qui existe entre cette énergie que nous l'appelons vie et ces agrégats d'unités de force au moyen duquel cette énergie s'exprime et construit une forme. Il désigne l'activité qui prend place lorsque les paires d'opposés sont mises en contact et par laquelle ils sont unis pour produire une troisième réalité. Cette troisième réalité ou résultat porte le témoignage de leur relation et une autre vie dans une forme apparaît. Il y a donc toujours relation, union, naissance. Ces trois mots contiennent la véritable signification du sexe. Là, il y a toute une richesse à faire émerger dans la conscience de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a une disproportion avec tous ceux qui se laissent aller, comme on dit, à la facilité et à la promiscuité. Et ça a démarré en 68, ça. Mais il y avait interdit auparavant. Pardon.
Mais alors pour les couples qui ne peuvent plus procréer, enfin.
Tu crées.
Oui, tu crées pas. Je veux dire, tu crées autre chose.
Tu crées. Non, mais je. Il n'y a pas de boutade dans ce que je dis. Je suis très très sérieux. Tu as une fonction génératrice, le sexe. Mais le sexe divin, il est création. Et dès l'instant où tu es au contact du divin, c'est-à-dire que ta pensée, tu en connais la réalité de puissance créatrice, et que tu veilles à n'utiliser que des énergies relevant des plans supérieurs. Le beau, le vrai, le bien, le pur. Eh bien, tu uses du sexe dans sa fonction divine. C'est l'aspect divin qui fonctionne en toi. Donc à un moment donné, dans son cycle, eh bien, l'être humain, après avoir généré, procréé, il crée. Donc, quand tu me dis, il vient le temps où on a assumé normalement cette fonction. Eh bien, le temps n'est plus vis-à-vis, on va dire, de l'aspect mère, matière, où c'était fournir des corps. Le temps est venu pour le Père, l'Esprit. Et quand on dit créer, mais tu peux, je dirais, transmettre. Tu peux transmettre, tu peux faire des ouvertures auprès des êtres auprès de toi. Imagine dans l'évolution la richesse d'un couple qui, dans sa fonction active, peut assumer en plénitude cela. À ça, je te réponds, est-ce que c'est su et connu publiquement ? Non. Donc, ça doit se faire de bouche à oreille. Et là, tu sers la vie. Tu allumes des réverbères.
Oui, mais là, tu parles pour des relations sexuelles ou en dehors des relations sexuelles, oui, après.
Mais quand tu crées, tu es en fonction sexe sacré. Élargis ton champ du concept du sexe. Quand tu te réalises en tant qu'être, tu es en réalisation sexuelle sacrée. si tu considères que le sexe est union, ta démarche est de t'unir au Père, à ta réalité. Alors ne me dis pas que tu n'es pas simplement... Le sexe a différents niveaux de fonction. Quand tu crées... Regarde, tu penses. Tu illustres une idée. Donc tes vies mineures, du plan mental, de ton être, du mental supérieur ou de l'âme universelle. Tu attires, pour construire ton idée, ta forme pensée, tu attires des vies mineures. Mais tu es en plein acte sexuel. Tu es en plein acte sexuel. Simplement, tu choisis ou tu subis, comme on dit, ton lot. Si tu es en lumière, tu décides de tes choix, autrement tes vies mineures te l'imposent. Tu le fais simplement, prends conscience de l'importance au sens où c'est ton futur à titre personnel que tu définis. Il y a un temps pour tout. Mais tu sais, quand tu n'es que plus qu'esprit, les pulsions physiques, tu les connais plus. C'est parce que tu es au contact de la matière que tu connais, je dirais, ces liens et ces entrelacements plus ou moins, comme on dit, clair et net, libéré de la matière, mais c'est fini, tu n'as même plus de pulsion. Quand tu quittes ton corps physique, tu n'as plus de pulsion sexuelle. Donc, quelle est la démarche ? La démarche, c'est que, in fine, tu dois pouvoir un jour, en toute réalité, dire « Moi, Dieu, je suis matière ». Mais ça veut dire que ta forme est conforme à ta réalité intérieure. Et quand je dis ta forme, c'est ta forme de personnalité, hein, c'est-à-dire ce que tu exprimes aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel que sur le plan mental. Et que fait le Père, celui qui donne la vie à la planète ? Ben, il est en union sacrée pour que l'on fusionne dans sa réalité. Tout est... Excuse-moi, mais j'aime pas parce qu'il y a tellement... C'est tellement travesti, réduit, mais tout est axe sexuel en permanence. Quand tu formules une idée, tu attires des vies mineures, tu fais un acte sexuel. Donc, création. Hein ?
Quelle débauche ?
Oui, pour l'instant, au niveau de l'être humain, oui, quelle gabegie. Regardez, si vous intégrez ce que je pense, les éléments qui vous sont donnés, mais quand vous allez revenir, vous serez porté en instinct spirituel de ces concepts. Il faudra, si vous voulez, que même si vous avez une période, on va dire, où vous allez faire votre ouverture, allons-y, sentimentale, mais l'expérience fera que vous arriverez à cette exigence. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que, compte tenu comment la femme est traitée, même en Occident, eh bien, avec le recul, vous ne pouvez pas dire que ça a été, comme on dit, le plein équilibre au niveau du couple. ce qu'on a fait en tant qu'homme, n'est-ce pas? Bon, passons. Allons. Joël, il faut que tu fasses attention quand même, hein? Bon.
Eh oui, comme tu dis, j'ai de l'attention.
Ouais. Alors.
T'es hyper attention.
Alors, premier postulat. Hein, vous voyez, on est page 18, c'est ça? Hein, par rapport à vous. Bon, vous avez premier postulat, mettez un en marche parce que c'est des éléments fondamentaux. Hein, le public.
Pour cela, le premier postulat.
Pour cela, le premier postulat. Mais en marge, mettez un pour bien les repérer. Le premier postulat qui doit être établi et sur lequel, là, on parle en fait de ce que devraient être les idées concernant la vie du couple, la vie sexuelle. Sur lequel le public en général doit être éduqué et que toutes les âmes s'incarnent et se réincarnent selon la loi de renaissance. Quand vous vous incarnez, hein, quand vous descendez là, hein, depuis votre être, hein, l'âme, mais ça n'est qu'une suite d'union sexuelle. Quand vous relancez votre unité mentale, donc votre banque de données, vous attirez les vies mineures mentales qui vous correspondent. Idem sur le plan du corps émotionnel, idem sur le plan physique. Donc, vous êtes là dans une démarche sexuelle, mais le positif qui attire le négatif, au même titre que le père nous attire. Il en découle que chaque existence n'est pas seulement une récapitulation de l'expérience de la vie, mais la reprise d'anciennes obligations, d'anciennes relations. Elle offre l'opportunité de payer d'anciennes dettes, une chance de restitution et de progrès, d'éveil de qualité profondément enfouie, la reconnaissance d'anciens amis ou d'anciens ennemis. La réparation d'injustice donne l'explication de ce qui conditionne l'homme et le fait ce qu'il est. Voilà, vous avez à la fois loi de renaissance et loi de karma. Alors, lorsque cette loi sera admise comme principe intellectuel gouvernant, les hommes deviendront plus sérieux dans leur façon de parcourir le sentier de la vie et prendront le plus grand soin à remplir leurs obligations de famille et de groupe. Vous comprenez bien que le jour où la loi de renaissance va être publique, il y en a qui vont réfléchir en deux fois avant de prendre les chemins de traverse. Hein. Hein. Remarquez, il y a encore le risque, c'est que en Orient, c'est su. Mais ils font de la résistance. Hein, au sens, on verra plus tard. Avec, bien sûr, la déchéance au niveau énergétique. Le second postulat... Hein, dernier paragraphe, vous mettez un 2 à côté. Le postulat fondamental fut énoncé pour nous par le Christ lorsqu'il nous enjoignit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas attaché à cela jusqu'à présent que peu d'attention. Nous nous sommes aimés nous-mêmes et nous avons aimé ceux qui nous plaisaient. En fait, il faut aimer universellement. Parce que notre prochain est une âme comme nous le sommes, et il n'y a qu'une seule âme. Alors, je vais plus loin. Nous avons donc la loi de renaissance et la loi d'amour. Et ces deux lois sont de nature à sauver l'humanité et reconstruire notre civilisation. Vous voyez donc que dans notre civilisation de séparativité, cet aspect mal connu, dévoyé, est un handicap fondamental. Il y a un aspect de l'amour que je voudrais souligner parce que les disciples ont souvent grande difficulté. Ils se trouvent dans leur proximité, dans leur environnement humain, même au niveau de la famille, à avoir des réactivités, peut-être parfois tout à fait compréhensibles, liées aux faiblesses des autres. Mais il n'y a pas de hasard, si cette faiblesse réactive dessus, ils sont irritables, c'est que d'une certaine façon, ils n'ont pas atteint la maîtrise. Et par conséquent, n'oubliez pas chant d'amour. Aidez l'autre à devenir meilleur. La loi d'amour n'est pleinement assumée justement que si on a ce dépassement de soi et de dire, eh bien, il n'est pas à l'équilibre. Je suis prudent. Si je suis irrité, c'est que j'ai pas encore atteint le juste équilibre. Et comment je dois faire en tendant l'autre joue, c'est-à-dire comment puis-je l'aider à devenir meilleur? C'est la troisième partie, si vous voulez, de l'exercice, c'est-à-dire faire don d'amour. Et il n'y a pas de karma quand il y a usage sain de l'amour. En vous rappelant, hein, j'insiste là-dessus, parce que là encore, confusion avec l'affectivité, un être d'amour peut être exigeant, dur et sévère. Attention, hein. L'amour, c'est pas un cadeau. C'est la loi d'équilibre, l'amour. C'est le juste positionnement des atomes. Et tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas de hiérarchie, non. Il y a simplement le fait, c'est que l'électron, il se place à une distance respectable de l'atome. Et à nouveau, l'atome électron se place à une distance respectable. Puisqu'en fait, tout ça, c'est des échanges d'énergie. La troisième loi fondamentale concernant la solution de nos problèmes modernes, y compris celui du sexe, découle normalement de deux autres lois. C'est la loi de la vie de groupe. Nos relations de groupe doivent être envisagées et reconnues. Il ne suffit pas qu'un homme remplisse avec amour ses obligations familiales et nationales, il doit aussi songer en termes plus vastes à l'humanité elle-même afin d'exprimer la loi de fraternité. La fraternité est une qualité de groupe. La jeunesse qui naîtra prochainement possédera un sens plus profond de la notion du groupe et sa conscience de groupe sera aussi beaucoup plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Les jeunes seront à même de solutionner leurs problèmes, y compris celui du sexe, en se posant à eux-mêmes ces questions dans les situations difficiles. Cette action que je vais accomplir tend-elle au bien du groupe? Le groupe pâtira-t-il? Alors le groupe, ça peut être bien évidemment la famille, le groupe d'amis, le groupe professionnel, et ainsi de suite. Sera-t-il lésé si j'agis de telle ou telle manière? Ceci est-il de nature à procurer au groupe bénéfice, progrès, intégration et unité? Et les actions qui ne répondent pas aux nécessités du groupe seront alors automatiquement écartées. Dans les décisions à prendre, l'individu et l'unité doivent peu à peu apprendre à subordonner le bien personnel et le plaisir personnel aux conditions de groupe et aux besoins de groupe. Il apparaîtra dès lors comment le problème sexuel tend à sa solution. Une compréhension de la loi de renaissance, la bonne volonté envers tous les hommes, s'exprimant par l'innocuité et un désir de bonne volonté de groupe, deviendront progressivement des facteurs déterminants dans la conscience raciale et notre civilisation s'ajustera peu à peu à ces conditions nouvelles. Alors, dernier postulat, le point final, c'est lié au pays. Nous naissons dans un pays qui nous concerne dans notre rôle de groupe. Ce qui veut dire que, et je vais tout en bas, je ne sais pas pour vous si c'est ça, et pour cela que le serviteur de la race coopère avec les lois du pays où il vit, sans pour autant cesser d'agir contre les injustices qui peuvent découler de ces lois et en vue de l'amélioration des impositions légales sur l'humanité dans son pays. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un pays par hasard, qu'on est peut-être là pour donner un coup de pouce à l'évolution de la conscience du pays, qui peut être une conscience de groupe, et qu'il faut être rebelle pour tout ce qui va dans le sens inverse des justes relations et du respect d'autrui. En vous rappelant que dans la traversée du Main, il y a trois portes à servir, servir. J'irai peut-être pas jusqu'au bout. Alors, sexe et l'état de disciple. Alors, en fait, ça, si vous voulez, c'est pour faire apparaître les excès qu'il y a pu y avoir par les religieux, notamment sur que doit faire le disciple pour être vraiment. Et donc, c'est lié à au célibat, l'abstinence, le sexe est sale, mais enfin, tout ça, on va pas revenir dessus, c'est les travers bien connus. Donc, je vais vous laisser voir cela. Le disciple est l'aspirant sur le sentier, ainsi que l'initié sur son chemin éclairé. Réfléchissez à ça, ça vous donnera peut-être des idées. N'ont pas de meilleur terrain d'entraînement que le mariage normalement utilisé et réellement compris, le fait d'amener la nature animale à une discipline rythmée. L'élévation de la nature émotionnelle et instinctive sur l'autel du sacrifice et l'abnégation de soi acquise dans la vie de famille sont de puissants procédés de purification et de développement. Le célibat nécessaire est celui de la nature supérieure vis-à-vis des désirs de la nature inférieure. Ça, c'est le véritable célibat. Est-ce que vous comprenez ?
Non, je
ne
sais pas où
on est. On est à la dernière page. Mais la dernière. Et tu dis rien, hein? Vous y êtes là?
Non.
Alors, le disciple et l'aspirant, c'est l'avant-dernier paragraphe. Tu l'as ou tu l'as pas?
Si, c'est ça.
C'est à 305. @306.
Après 306.
La cinquième ligne après l'aspirant.
Non, j'ai pas la page.
Il n'y a pas la page?
Absent?
C'est dans
l'imprimante. Oui, la première est au verso. C'est la 21e page, elle est restée dans l'imprimante.
Oui, alors, le célibat nécessaire est celui de la nature supérieure vis-à-vis des désirs de la nature inférieure. Est-ce que vous voyez le déplacement de saisie de conscience ? En fait, si vous voulez, ce qui aurait dû être indiqué comme étant abstinence vis-à-vis de la nature lunaire, on l'a transformé en célibat.
D'accord.
D'où encore lecture erronée. Cette attitude de célibat imposée a engendré chez beaucoup de disciples plusieurs genres de perversion des fonctions et des facultés données par Dieu. Oui. Il y a eu mauvaise lecture du sujet. Comment voulez-vous que des êtres s'incarnent s'il n'y a pas relation sexuelle? Comment voulez-vous que des êtres plus avancés puissent venir s'il n'y a pas les unions supérieures? Un couple qui vit en animalité, il attire des êtres très jeunes en évolution. Alors, aujourd'hui, quelle est la difficulté qui vient s'ajouter à tout ça? Eh bien, c'est le fait qu'il faut franchir les portes de la personnalité et vivre en tant qu'être. Donc, c'est la difficulté, si vous voulez, du passage entre le quatrième et le cinquième règne. Et la difficulté, c'est un être qui est dans le cinquième règne et qui a eu, pour des raisons diverses, soit personnelles, soit contraintes, à vivre un rapprochement en couple avec quelqu'un du quatrième règne. Alors derrière tout ce sujet, eh bien vous avez la boîte de Pandore. À savoir que, en ouvrant la boîte de Pandore, des vies trop jeunes, dans leur propre évolution, ont été lâchées et sont devenues des cavales, c'est-à-dire incontrôlées. Et nos vices, nos faiblesses, sont en fait des vies mineures incontrôlées, qui se traduisent par l'hydre à neuf têtes. Voilà, je vous invite bien évidemment comme...
La première page,
non? Ah oui. Oui, j'avais dit à la fin. Bon, c'est pour vous dire que l'être humain, en tant que centre d'énergie, est sous l'influence plus particulier de rayons. Et notamment le quatrième, qui est le rayon d'harmonie, de beauté et d'unité, puisqu'en fait, il doit être la synthèse. Et le cinquième rayon, qui est celui de la connaissance concrète, du pouvoir de connaître et de la science. Alors je vous envoie à la page 2. Si vous voulez connaître vos rayons, en ce qui concerne le corps mental, ce mental est là, dans la très grande majorité des cas, sous l'influence du rayon 1, le pouvoir, du rayon 4, l'harmonie par le conflit, et du rayon 5, la connaissance concrète, la science. Le corps émotionnel est essentiellement sous les rayons 2 et 6, rayons pairs. Et le 3 et le 7 gouvernent la vie du corps physique, énergétique, puisqu'en fait, et notamment le 7, il a à unir l'esprit et la matière. C'est pour vous donner une idée, pour situer plus précisément le problème qui pourrait vous intéresser au niveau de l'hydre, c'est-à-dire les vices des rayons, que vous retrouvez dans le livre 5, Psychologie ésotérique, et qui vous donne pour chaque rayon vice et vertu.
15.
Oui, non, mais oui, ouais, ok, autant pour. Non, mais autant. Je donne des références. D'ailleurs. Oh, ok, voilà. Sur le. Comment ? Voilà. Mais c'est pour vous aider à comprendre. Allez voir si vous êtes interpellé pour voir les vices des rayons. Et si vous êtes honnête avec vous-même, eh bien vous arriverez à cerner en disant, tiens, mon mental, est-ce qu'il serait plus influencé par le premier, par le quatrième ou par le cinquième ? En regardant, mais sachez que les vices se superposent de rayon en rayon.
Exactement, oui. On va voir tous les vices de tous les rayons.
Et que le but de l'être humain, c'est d'avoir la maîtrise des 7 rayons. Et... Voilà, vous avez des questions ?
Non, c'est...
Qu'est-ce qu'on étudie la prochaine fois ?
Ah,
Monsieur l'organisateur.
Merci Bernard. D'abord. Alors le mois de mars, ce sera l'intégration des qualités divines.
Ouais.
Intégration des qualités divines.
Qu'est-ce qui fait que l'homme devient un être divin ?
Ce qu'il devient enfin ce qu'il est.
Comme tu dis. Tiens, tu veux l'arrêter ?